Mais regardez bien, vos montres à gousset et autres téléphones portables, mon Dieu, il est déjà exactement 20h. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est Quasar on the air, l'émission du centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe d'Angers et du Maine-et-Loire. Stéphane Corbin pour vous servir jusqu'à 21h. Vous le savez, nous nous retrouvons pendant cette saison radiophonique qui va bientôt s'achever, 2022-2023, puisque nous sommes sur une année qui commence en septembre et qui s'achève fin juillet ou encore courant l'été, juillet et août. Mais il n'empêche que c'est ce rythme de radio et de grille de programme de Radio G 101.5. On vous espère en pleine forme de ces 15 jours qui nous ont séparés de l'émission précédente. Comme chaque fois, nous avons des invités et puis aujourd'hui, eh bien, grande nouveauté vers la fin de notre saison, disais-je, avec une chronique livre et Carou qui nous a rejoint. Vous en ferez la connaissance tout à l'heure et nous discuterons avec elle du livre qu'elle a choisi de vous chroniquer cette semaine et de vous parler de ses passions et de tout ce qui va pouvoir faire que nous nous retrouverons pour parler livres avec elle. Et puis des invités aussi. Nous allons parler en prémisse de la diffusion du documentaire de Mediapart le 27 juin prochain, le mardi 27 à 20h au 400 coups du fameux documentaire Guet-apens des crimes invisibles, et nous aurons l'un des journalistes de Mediapart en la personne de David Perrotin qui viendra nous expliquer comment tout cela s'est mis en forme, qu'est-ce qui les a incités à travailler sur ce sujet et qui leur a permis de produire ce documentaire et surtout, chose plus importante, ce qu'il révèle exactement de l'état d'homophobie et de biphobie en France avec des chiffres assez alarmants. Bon, il n'y a pas de secret, comme d'habitude, nous ouvrons la machine avec exactement l'agenda. L'agenda de Quasar pour les quelques jours qui nous séparent de la fin du mois de juin 2023. Alors, vous savez que nous sommes aujourd'hui, donc le 22, ça vous l'aviez capté, et nous nous donnons rendez-vous samedi pour un certain nombre de rendez-vous à Quasar directement, 15 rue de Jérusalem. C'est entre le cimetière de l'Est et l'avenue Pasteur pour ceux qui situent plus facilement. Alors dès 9h, dans les locaux, il y a cours de français pour les demandeuses et les demandeurs d'asile, mais aussi ceux qui en auraient besoin. Très pratique, très pragmatique, et c'est offert tout à fait gratuitement aux demandeuses et demandeurs d'asile, suivi par Quasar. Et je fais une petite insiste pour vous dire que cette semaine, Quasar, le centre LGBTI d'Angers, a atteint la 500e personne suivie dans le cadre du pôle droit des étrangers, qui est des personnes qui demandent un statut de réfugié à la France en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. À 15h, samedi toujours 24, ce sera Transfamille, un rendez-vous de la team Trans Inter, celle qui permet effectivement de discuter de transidentité, de questionnement, de non-binarité. Et ce rendez-vous est à 15h, de 15h à 17h très exactement, dans les locaux de Quasar. À 17h, la permanence hebdomadaire. Et vous n'oubliez surtout pas que depuis le début du mois de juin à Quasar, eh bien, il y a une permanence qui existe du lundi au vendredi de 14h à 19h. Le mardi 27, justement, nous en parlerons à 20h. C'est le ciné-rencontre au 400 coups cinéma rue Jeanne Moreau à Angers avec le documentaire donc Guet-apens, des crimes invisibles signé Mediapart. Et nous en parlerons avec David Perrotin. Songez vite, vite à réserver vos places au cinéma Les 400 coups. Les tarifs sont habituels et donc après la projection, eh bien, vous pourrez échanger dans la salle avec Quasar et David Perrotin de Mediapart. Le samedi 28 juin, eh bien, on présentera une... Alors, c'est pas le 28, c'est pas un samedi, c'est un mercredi très exactement. Eh bien, nous présenterons une enquête en linguistique non binaire. Et peut-être que tout à l'heure, qui sait, miracle de la technique, nous pourrons discuter avec Alouette qui réalise cette enquête pour Quasar dans le cadre d'un stage. La non-binarité, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Peut-être que nous aurons l'occasion, avec plaisir, d'échanger avec. Tout dépendra de sa disponibilité en fonction de ce qu'il sera en capacité de nous rejoindre ou pas. Et on s'adaptera, comme on l'a toujours fait, ici, dans Quasar, on the air, sur Radio G 101.5. Bon, vous avez vu, hein? Il fait orageux ce soir sur Angers, sur le Maine-et-Loire aussi. On en profite, on parle un peu de pluie avec Ariana Grande et Lady Gaga, Rain on Me. Belle soirée, nous sommes là jusqu'à 21h. We'll be right back.
rain on me.
Il y a eu Raining Men et il y a aussi Rain on Me, Gaga et Grande pour notre plus grand plaisir, Radio G, Quasar en d'hier. Je vous le disais dans l'agenda, nous avons un rendez-vous mardi de la semaine prochaine, le 27 juin très exactement. Rendez-vous important, lutte contre l'homophobie, la biphobie et ce phénomène qu'on appelle les guet-apens. Nous allons en parler avec notre premier invité au téléphone, David Perrotin, qui nous a rejoint. Bonsoir David.
Bonsoir.
Alors, toi, tu es journaliste à Mediapart, mais tu ne signes pas qu'à Mediapart. On t'a lu sur d'autres médias les dernières années. Mais là, particulièrement, on t'invitait pour parler de guet-apens, puisque vous êtes trois à avoir réalisé Enquête et le documentaire. Est-ce que tu peux nous parler de tes complices dans cette affaire ?
Oui, alors avec Mathieu Magnodex et Sarah Brett, donc tous les deux journalistes à Mediapart, du coup on a enquêté depuis plusieurs mois sur le phénomène des guet-apens homophobes, et c'est comme ça qu'on a produit le résultat, c'est-à-dire le documentaire Guet-apens des crimes invisibles.
Alors toi, tu as approché cette question donc des guet-apens à partir de quel moment exactement, et qu'est-ce qui t'a mis une intuition de réalisation et de découverte d'un phénomène dont on va parler?
Alors en fait, la réalité, c'est que l'idée est venue de Sarah Brett, ma collègue, qui, avant d'être à Mediapart, travaillait à l'AFP et qui avait suivi deux affaires à Bobigny et à Drancy de guet-apens. Et elle était venue, en fait, elle est arrivée il y a un an et demi à Mediapart, elle est venue avec cette interrogation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un phénomène ou est-ce que c'est marginal? Et on en a discuté, et puis comme moi je suis à Mediapart, rubrique discrimination, on s'est mis tous les deux dessus. Et en fait, au début, on s'attendait pas du tout à avoir autant de dossiers, et progressivement, quand on a travaillé, plus on creusait le sujet, plus on trouvait des affaires dans la presse quotidienne régionale, avec nos sources avocats, avec les associations évidemment, et c'est comme ça que après on a tapé à la porte du service vidéo de Mediapart, parce qu'on s'est dit qu'en fait ça valait plus qu'un article, que ça valait une vidéo, et puis c'est eux qui nous ont dit en fait il y a tellement de matière qu'il faut en faire un documentaire.
D'accord. Et dans les affaires qu'elle a suivies, on rappelle qu'à l'AFP, il y a une cellule particulière qui suit les questions LGBTI+.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait,
d'où l'idée. C'est ça.
Voilà, exactement.
Et l'enquête, alors, sans dévoiler les sources, puisque ça, c'est une chose impossible, mais comment est-ce que, quand on est journaliste, qu'on a envie de travailler sur ces questions-là, on rebondit, qui est-ce qu'on contacte, comment est-ce qu'on arrive à tisser, finalement, des liens avec des victimes qui sont de partout en France?
Là, en fait, on a lancé un énorme filet, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on veut voir s'il y a un phénomène, on veut voir si c'est massif, on va taper à toutes les portes. Donc, on a tapé aux portes des avocats qu'on connaissait, qui suivaient souvent les dossiers qui traitaient des questions LGBT, mais on a aussi, évidemment, tapé aux portes des associations SOS Homophobie, Stop Homophobie ou des associations plus locales. Et surtout, en fait, ce qui était assez dingue, c'est que quand on épluchait la presse quotidienne régionale, alors évidemment, c'était pas forcément recensé avec le terme guet-apens,
oui.
Mais vous aviez des termes du genre un rendez-vous coquin, tourne au massacre, un rendez-vous galant, fini en coup de couteau. Et en fait, c'est comme ça qu'avec un travail minutieux, qu'on a d'abord recensé, que là, on a vu qu'il y avait des centaines de dossiers. Et c'est comme ça que là, on a dû sélectionner. Donc, on a contacté énormément de personnes. Évidemment, dans la plupart du temps, comme il s'agit de... Souvent, en tout cas, le profil des victimes, c'est des hommes homosexuels ou bisexuels qui vivent ça de manière plutôt discrète. La plupart du temps, on nous a dit non, on souhaite pas parler, pas devant une caméra, même de manière anonyme. Et puis, en fait, on a choisi de prendre des dossiers, c'est-à-dire, alors c'est un peu trivial comme terme, mais qui étaient complets, c'est-à-dire qui avaient été judiciarisés, donc des victimes qui avaient subi un guet-apens, qui avait soit porté plainte, soit la justice en était saisie et qui avait pu aller au tribunal. Et c'est comme ça que on a plusieurs victimes qui ont accepté de parler dans le documentaire. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi retrouver des images, retrouver des dossiers, avoir plus de détails sur le profil des agresseurs.
Alors, pour ceux qui nous suivent et qui ne sauraient pas comment tout ça se passe, un travail d'enquête journalistique, c'est un ratio de combien à peu près de personnes qui refusent de témoigner parce que peur, parce que voulant rester discret, pour obtenir un documentaire de 82 minutes?
Ben là, on doit avoir une dizaine de personnes qui ont accepté de parler pour, je sais pas, moi, je pense, je dis comme ça à la louche parce que je m'en souviens pas, mais au moins, en tout cas, pour 60 dossiers étudiés et une quarantaine de personnes qui ont refusé.
D'accord, effectivement. Et après, vous anglez, c'est-à-dire que vous prenez la substantifique moelle des témoignages, et puis il y a des victimes qui sont plus ou moins facilitantes à la prise de parole, et puis qui disent des choses frappées au coin du bon sens, ou qui ont grand intérêt. Et c'est ça, c'est l'œuvre du montage, après, du documentaire, je suppose.
C'est ça, et en fait l'intérêt en tout cas dans notre enquête journalistique, il y a évidemment les victimes qui ont accepté de parler et qui ont eu énormément de courage à raconter tout ça face caméra. Mais c'est vrai que la matière, on l'a aussi et surtout eu en off, c'est-à-dire dans les coulisses, parce que pour relever un phénomène, un système et quelque chose de massif, il fallait qu'on étudie et qu'on parle à beaucoup d'autres, même si on les voit pas face caméra. Il fallait qu'on comprenne les ressorts, le mode opératoire, qu'on voit s'il est si c'est le même à chaque fois, et qu'on ressente aussi ce qu'ont à dire les victimes, même si on les interviewe pas face caméra.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui, y compris les personnes qui ne souhaitent pas témoigner et être dans un documentaire, nous renseignent très fortement en réalité quand on fait un travail d'enquête.
Exactement.
Enfin, je dis nous parce que j'ai un vague souvenir de mes années têtues, mais mais en fait c'est comme ça que ça fonctionne, parce que sinon on ne peut pas prendre que 10 dossiers qui résumeraient une situation. Et puis ça permet de ne pas passer à côté dans le témoignage et dans le tournage, je suppose. Ouais. Ça représente combien d'heures à la louche, hein, évidemment, du moment où on a l'intuition et que le produit est fini, une idée à peu près approximativement?
Alors, en termes d'heures, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'on a vraiment commencé à travailler il y a presque un an. Et en fait, c'est des moments, c'est-à-dire qu'au début, on va vite parce qu'on a l'idée du sujet et on creuse, on contacte tout le monde. Après, il y a un petit temps mort et puis évidemment, on fait d'autres sujets à Mediapart. Mais je dirais que ça a été 3 mois intenses. Sans compter le montage, mais en tout cas sur la partie enquête. Et puis, faut dire que là, on a mis toute notre énergie, c'est-à-dire qu'on était plusieurs. Il y a eu Mathieu Menudex, je disais Sarah Brett, mais il y a aussi Valentino Berti qui nous a beaucoup aidé. Donc on était vraiment quatre, avec parfois Mathieu qui va être à temps plein détaché dessus, parfois c'est moi. Donc là j'ai eu la chance de profiter des moyens et de l'énergie et de l'envie de Mediapart, parce que tout seul
c'est impossible. Ça c'est tout à fait impossible. Alors maintenant on va entrer dans le sujet lui-même. Les témoins que vous avez, qui ont accepté de paraître dans le documentaire, est-ce que finalement, lorsqu'ils témoignent, disent des modus operandi qui sont à peu près identiques, ou il y a vraiment une grande diversité d'arnaques et de guet-apens?
Non, alors ce qui revient très souvent, même s'il y a évidemment des cas plus atypiques dans tous les dossiers qu'on a, mais ce qui revient très souvent, c'est deux situations. Soit la première, c'est la victime est piégée via une application ou un site de rencontre, que ce soit Grindr, Scruff, Hornet ou le site Coco.
Oui. Surtout Coco d'ailleurs, j'ai l'impression.
Surtout Coco. Oui. Mais ça arrive aussi via Grindr, par exemple, où là, le mode opératoire, ça va être des agresseurs qui vont savoir qui vont connaître l'application et qui vont piéger de cette manière-là, de se rendre chez la personne pour arriver la frapper et la voler la plupart du temps. La deuxième situation qu'on a rencontrée qui est un petit peu différente, c'est sur les lieux de drague, que ce soit à Paris aux Tuileries, que ce soit à Besançon au parc Nico, que ce soit à Tarbes ou ailleurs. On sait tous qu'il y a des lieux plus spécifiques dans chaque ville ou dans chaque région où on va faire des rencontres. Et là, vous avez des agresseurs qui vont savoir que c'est un lieu de rencontre, se positionner généralement, c'est tard le soir quand il y a moins de quand il n'y a pas de témoins ou de passants, et vont pouvoir soit se faire passer pour des personnes qui veulent... Alors, généralement, c'est une personne qui sert d'appât et qui va faire croire qu'elle veut rencontrer, qui va isoler la victime, et soit elle sera toute seule, soit avec d'autres complices pour la frapper et la voler. C'est ça, les deux modes opératoires qu'on a retrouvés le plus souvent dans tous les dossiers, c'est-à-dire les 300 dossiers qu'on a épluchés ces 5 dernières années.
Bon, alors ça, c'est le résultat de l'enquête, mais on se dit là tout de suite que c'est extrêmement grave parce que ça va jusqu'au meurtre.
C'est ça, c'est que ça va jusqu'au meurtre. Alors, pareil, on n'a évidemment pas mentionné tous les meurtres, mais on en raconte un dans le documentaire d'un comptable qui vit son homosexualité de manière discrète, qui, via le site Coco, reçoit un individu. Ils vont discuter, ils vont échanger plusieurs fois et à un moment donné, il va prendre un couteau, il va le poignarder. Et donc voilà, ça arrive. C'est pas dans tous les dossiers, on n'a pas ça heureusement, mais ça va jusqu'au meurtre.
Alors moi, en même temps qu'Aro me tend une feuille et une question, ben tu peux peut-être la poser directement, Caro. Bonjour d'abord.
Alors bonjour. Moi je suis lesbienne et le mode opératus que je connais sur les sites de rencontres, c'est plutôt se faire passer pour un couple qui veut pimenter sa vie sexuelle avec une femme lesbienne. Et donc il y a déjà ça qui est pas bien. Mais est-ce qu'une femme lesbienne ou une femme bisexuelle peut aussi servir de victime pour un guet-apens, ou c'est seulement un phénomène masculin?
Ça, c'est très bonne question, ouais. Parce que tout le monde se la pose en réalité.
C'est ça, et évidemment que nous, on s'est interrogé avant et pendant le documentaire pour savoir. On savait qu'exclure la problématique que pouvaient vivre les lesbiennes et même les personnes trans, oui. Ça posait question, puisque il y a évidemment des violences de toutes parts. Ce qu'on a découvert, c'est que ce mode opératoire et le phénomène du guet-apens, comme on le raconte dans le documentaire, il est propre. Alors évidemment qu'il y aura, on pourra toujours trouver des contre-exemples, mais que la violence, et en fait il s'agit de violence, mais souvent et très souvent d'hyper-violence, elle s'applique particulièrement sur les hommes gays et bi, et le profil, on va dire un peu plus affiné, c'est sur des hommes gays et bi qui ne sont pas out, qui vont vivre ça de manière discrète, parce que dans beaucoup de dossiers, les agresseurs eux-mêmes, quand ils doivent s'expliquer, disent on savait, par exemple telle personne qui allait sur tel lieu de drague alors que c'est une personne mariée, ou telle personne qui sur le site Coco dit je suis mariée, il faut venir à telle heure pour un plan cul. Les agresseurs prenaient en compte l'idée que ces personnes n'iraient pas porter plainte parce qu'il y avait un phénomène de honte et qu'il y avait quelque chose à cacher par rapport à leur propre situation familiale. Donc c'est pour ça que en fait c'est quelque chose de et nous ce qu'on s'est dit par exemple, c'est que si on devait raconter la violence qui s'exerce contre les lesbiennes, ce serait ce serait peut-être massif, certainement, mais ce serait un autre contexte. Par exemple, on sait que cette violence-là, elle s'applique beaucoup dans le cadre familial, ou qu'elle s'applique beaucoup dans la rue, par exemple, pour un couple de femmes lesbiennes, où on va avoir tendance, un homme va les sexualiser, va d'abord vouloir une relation sexuelle, et puis, par frustration, avec cette idée que forcément qu'une femme est à lui, et que si elle lui résiste, ce n'est pas admis, là, il aura une agression. Et donc, c'est pas les mêmes phénomènes, c'est pour ça qu'on a préféré, ne pas tout mélanger.
D'accord. Donc, on a cette explication-là, et il n'empêche que c'est quand même une question à creuser, mais l'invisibilité lesbienne va jusque dans ces détails, c'est-à-dire que on n'a pas forcément toutes les remontées aussi. Et on redit que le nombre de plaintes déposées par rapport au nombre de cas supposés ne représente, allez, soyons généreux, que 10%, et donc il reste 90% de plaintes qui ne sont jamais déposées. On est d'accord à peu près sur ce chiffre-là?
Ouais, c'est ça. Et puis je vais être totalement transparent. Je pense qu'il y a un biais lesbophobe. Quand on fait un documentaire comme ça et qu'on met toute l'énergie pour documenter un phénomène qui concerne les gays ou les bi, c'est de l'énergie qu'on met pas pour creuser la question de la lesbophobie. Donc c'est clair que nous, l'enseignement qu'on a tiré de tout ça, c'est que, alors évidemment, on le fait à Mediapart via des articles, mais l'idée d'un documentaire, par exemple, sur cette question, on l'a en tête et on le fera certainement parce que, évidemment, que si on met cette même énergie pour creuser le sujet, on trouvera autre chose, peut-être de plus massif, qui concerne les lesbiennes.
D'accord. Si on parle chiffres maintenant. On dit quoi très exactement de l'analyse que vous faites de la situation, des cas, de l'enquête sur le nombre de guet-apens depuis X années en France?
Eh bien, on dit que la situation est quand même dramatique puisque nous, ce qu'on a recensé, et c'est un chiffre à minima, c'est au moins 300 guet-apens ces 5 dernières années, ceux qu'on a pu consolider, qu'on a pu vérifier. Le chiffre grimpe, alors ça fait un guet-apens toutes les semaines,
ouais.
Un guet-apens homophobe toutes les semaines, et en 2022,
c'est ça.
C'est un guet-apens tous les 3 jours.
Ouais, donc il y a une hausse quand même très sensible.
Voilà, il y a une hausse très sensible qui s'explique à la fois, alors on peut pas forcément considérer qu'il y a une hausse des guet-apens, ça s'explique parce que il y a un traitement médiatique qui est, même s'il est tout à fait améliorable, qui va davantage le documenter, c'est-à-dire de la presse qui va plus se soucier de cette question, et des plaintes qui peuvent augmenter, même si on sait très bien, et c'est pour ça que je dis vraiment, c'est au moins 300 guet-apens, parce que le guet-apens, de fait, il y a un ressort pour les victimes très compliqué, c'est-à-dire ce sentiment de honte, puisque ce que je disais tout à l'heure, elles sont frappées dans le moment le plus intime, une rencontre sexuelle la plupart du temps, donc elles vont pas avoir tendance à porter plainte, et ceux qui les dossiers qui sont judiciarisés, souvent, c'est des personnes qui ont été gravement blessées, parce qu'il y a les secours, etc. Donc c'est pour ça que c'est un chiffre qui est minimisé, et on sait aussi qu'il y a que 20% des victimes qui portent plainte, dans le cas d'agression homophobe ou biphobe, donc évidemment que le chiffre est petit par rapport à la réalité.
Une question de Caro.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a étonnée dans la présentation de la presse régionale, quand vous épluchiez pour trouver les guet-apens, c'est que on parlait de rendez-vous amoureux qui tournaient mal. C'est un peu aussi quand au début les féminicides, on disait que c'était un crime passionnel. Est-ce que c'est le même ressort de présentation par les journaux, les médias?
Alors ça dépend quel média, mais on a vu que, enfin en tout cas oui, clairement, moi je fais le lien et on a tous fait le lien à Mediapart du traitement des violences conjugales ou des féminicides de cette question-là, parce qu'en fait quand on voit un rendez-vous galant virodrame, ça, il y a vraiment cette mécanique qu'on retrouve dans la presse, et puis pour avoir moi bossé ailleurs, je la connais cette mécanique, c'est-à-dire qu'en fait on traite les questions comme des faits divers parce qu'on sait que ça fait du clic. Et il y a quelque chose à la fois de cynique, de drôle, on s'en amuse. Et en fait, le plus grave, à la limite, c'est pas que le titre soit un peu tourné à la dérision comme on connaissait avant les ivres virgules, même si c'est tout à fait problématique. Le plus grave, c'est qu'on occulte totalement la dimension homophobe. C'est-à-dire que on parle de rendez-vous galant, on parle de rendez-vous amoureux. Et il y a dans beaucoup de papiers, il y a quelque chose de très culpabilisant. Grosso modo, on se fiche de la victime parce qu'elle aurait pris des risques à venir dans un parc de rencontres. Et surtout, à aucun moment vous avez écrit que c'est une agression homophobe. Donc, et ça, c'est vrai que, alors moins maintenant, la presse fait plus attention, mais dans beaucoup d'articles, c'était encore le cas, et c'est clair que c'est problématique parce que ça participe à invisibiliser le phénomène, à la fois des guet-apens, mais aussi de l'homophobie et des LGBT-phobies en général.
Une dernière question de Caro.
Oui, parce que moi, je voulais dire que si on parle de crimes passionnels ou ce genre de choses, ça veut dire qu'on recentre le crime sur une personne, alors qu'en fait, c'est un problème général.
C'est ça.
C'est ça, nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de montrer avec le documentaire. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de, grosso modo, si je dois caricaturer, c'est puisque la société ne veut pas voir ce phénomène, puisque la presse, la justice ou la police minimisent les choses et on développe dans le documentaire toutes les raisons qui font qu'on le minimise, nous, on vous le montre. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des images de violence, même si on n'a pas beaucoup, mais parce que il s'agit de montrer aux gens ce que la justice parfois retient trop comme un vol crapuleux. Voilà ce que c'est ces agressions, et elles sont hyper violentes. Et surtout le traumatisme des victimes qui, pendant des années, courent après la justice, attendent longtemps le procès, attendent les indemnités, etc. Et donc, il y a ce phénomène massif avec les chiffres et après avec tout le peu de considération qu'il y a pour les victimes. Donc, évidemment que nous, pas la morale de l'histoire, mais en tout cas, ce qu'on voudrait enseigner avec ce documentaire, c'est qu'il s'agit d'un phénomène systémique, massif, et qu'il s'agirait
De traiter et de prendre en considération.
Prendre la question à bras le corps.
Eh bien, on en parlera mardi. Le temps passe tellement vite, 20h30, Quasar Anzière. Merci David Perrotin, journaliste enquêteur pour Mediapart, au sujet de Guet-apens des crimes invisibles, dont la projection est prévue mardi prochain, 20h, les 400 coups Angers. David sera en chair et en os avec nous, projo, puis débat avec la salle si vous avez des questions. Et on parlera par d'ailleurs justice, police. Merci David, à tchao.
À mardi.
À mardi, en bonne santé et bonne forme. Au revoir.
Radio G. 101.5 FM.
Voici Oshi. On lui souhaite plein de courage. Elle a encore témoigné.
Depuis ses lèvres contre les tiennes, j'ai comme un poison dans les veines. Y a mon âme coincée sous les verres. Et dans ma bouche, un goût amer. Je rêve seul avec mes acouphènes. T'as mis mon cœur en quarantaine. Mon amour, tu m'as mise à terre. Aveugle et sourde et sans repère. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier. Je me sens conne, j'aurais pas pensé. J'abandonne, je mets tout de côté. Tu m'étonnes que l'amour fait crever. Je te pardonne. Je me sens si seule. Mes rêves s'effondrent, ils tirent la gueule. Notre lit devient comme un cercueil. Mes pleurs se fondent avec la table. La nuit est longue, je me sens minable. Mes rêves s'effondrent et je pète un câble. Dans notre chambre, je vois même le diable. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier. Je me sens conne, j'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, j'en ai vu assez. Les couleurs, j'ai broyé bien plus que du noir sur la palette de la douleur. Toutes les variantes du désespoir. Y'a toi qui peux me consoler. Pourtant c'est toi qui m'as blessé. C'est plus pareil, je nous vois flou. Je sens son odeur sur tes genoux. Je suis comme un soldat fusillé. J'ai pas vu l'ennemi arriver. Mais j'ai appris à prendre les coups. Je compte bien me battre jusqu'au bout. Je te pardonne, on va tout reconstruire. Je te pardonne, je sais qu'on va guérir. Je te pardonne, je peux pas faire autrement. Je te pardonne, ça sera beau comme avant. Je te pardonne, accroche-toi à mes bras, abandonne tous les manèges à trois, je m'en tamponne. Du temps que ça prendra, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne.
Titre fort pour Oshi, puisqu'elle a republié sur les réseaux sociaux en expliquant la tonne de haine qu'elle reçoit et dont elle est victime. Alors on l'embrasse bien fort et puis un jour j'espère qu'on lui rendra tout le bien qu'on pense d'elle. Quasar on the air, Radio G 101.5, c'est l'émission du centre LGBTI+, d'Angers et du Maine-et-Loire, Quasar, Q-U-A-Z-A-R.fr. Et puis nouvelle rubrique, Aujourd'hui, on redit bonjour à Caro. Bonjour Caro.
Bonjour.
Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu fais à Quasar?
Alors, moi je suis parisienne, et ce n'est pas un gros mot. Je suis à Angers pour le travail, et je suis à Quasar parce que je suis lesbienne, et je voulais m'investir dans une cause militante. Et donc j'ai proposé de faire de la prévention en milieu scolaire ou professionnel. Et comme il s'avère qu'on me définit aussi comme un rat de bibliothèque avec la voix de Miss Fine dans Une Nous d'Enfer, la série pour les vieux, quoi. Eh ben, on m'est
bonjour
tombé
les boomers.
Voilà, on m'est tombé dessus avec la bibliothèque de Quasar qui est un peu vieilli et voilà. Un peu mal vieilli.
Voilà,
même.
On désherbe alors. C'est le terme vraiment adapté en termes de bibliophile. Et on fait le point et on voit ce qu'il faut retirer et puis surtout acquérir et puis mettre à jour. Et dans cette optique, ben, je t'ai proposé de venir nous parler de tes lectures. Et de qui, de quoi vas-tu nous parler pour cette première chronique?
Alors aujourd'hui, comme on ne se connaît pas bien, j'ai choisi un livre facile et un livre qui parle de moi, entre guillemets, puisque c'est « Comment devenir lesbienne en 10 étapes » de Louise Morel aux éditions Hors d'atteinte. Ça coûte 16 euros et c'est un tout petit livre de 223 pages.
Alors c'est parti, tu en penses quoi?
Alors, initialement, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ce livre, parce que c'est un guide. Et lire des guides de vie, j'en ai lu mais plein toute ma vie, et ça m'a appris une seule chose, ça ne marche pas. Ou en tout cas, ça ne fonctionne pas sur moi. Je pense qu'on doit tracer chacun notre chemin. Et pourtant, j'ai acheté ce guide, peut-être parce que je me sentais perdue. Et je peux même pas dire oui, je l'empruntais, parce que je l'ai vraiment acheté. Et je me suis dit, comme on peut devenir lesbienne à n'importe quel âge, n'importe quand, ça peut nous tomber dessus, peut-être que oui, on a besoin d'un guide. Alors, je fais juste une aparté, hein, une lesbienne, c'est une femme, ou quelqu'un qui se reconnaît comme une femme, qui aime les femmes. Et donc, est-ce que c'est vraiment un guide? Alors, quand on regarde le sommaire, hein, oui, c'est vraiment un guide, c'est qu'est-ce qu'une lesbienne, le côté famille choisie, même un peu de sexo, hein, comme si on lisait Cosmo ou Biba. En revanche, quand on lit le livre, c'est pas du tout ça. Moi, j'aurais nommé le livre « Les choses que j'aurais voulu que l'on me dise lorsque j'ai su que j'étais lesbienne ». Alors évidemment, ça fait beaucoup moins vendeur, c'est super long, mais c'est exactement ça. Parce que quand on referme le livre et qu'on est lesbienne, on se dit « ça va bien se passer », on est regonflé à bloc, on a l'impression d'avoir des super pouvoirs et qu'on va pouvoir tout surmonter. Et c'est très important quand on n'a pas d'alliés ou quand on n'a pas d'amis ou alors quand on a une vision normée de l'homosexualité féminine. Ce que je veux dire par vision normée, c'est par exemple si vous allez sur Instagram, vous allez voir que quasiment toutes les lesbiennes sortent du même moule dans lequel beaucoup d'entre nous ne rentrons pas. Et donc ce livre est basé sur l'expérience de l'autrice qui s'est découverte lesbienne sur le tard. Elle raconte son expérience, c'est décomplexant, déculpabilisant, léger et sérieux à la fois, et en fait, c'est à mettre entre toutes les mains, aussi bien les lesbiennes que les alliés des lesbiennes. Et le petit truc que j'ai vraiment adoré à la fin, c'est qu'il y a une petite liste avec tout ce qui concerne la culture lesbienne, des podcasts, des séries, des livres. Donc on peut fouiner. Donc c'est un livre que je recommande vraiment. Et il faudrait l'acheter hein, pour la bibliothèque.
Ah ben alors on va faire ça, parce que sinon on va se faire gronder, je le sens. Et la prochaine fois, tu nous parles de quel livre, de quoi?
Alors j'avais trois propositions à vous faire, soit de transidentité, soit d'intersexualité, soit d'homosexualité dans le couple. Donc l'idée, ça serait, pour le moment, vous embêterez Stéphane en lui envoyant des mails à lui. Et quand j'aurai une adresse mail officielle.
Vous pourrez
m'envoyer vos demandes ou vos suggestions.
Ça sera le hit parade de la bibliothèque.
Voilà.
Donc le mail, c'est, je vous le rappelle, contact@quasar, Q U azar.fr. Merci Caro, tu restes avec nous ?
Oui.
Allez, plaisir. On en profite parce que véritablement, là, on va pouvoir ensuite parler bien de plein de choses. Et on va parler de centre LGBTI+, qui se crée, et nous prenons la direction de Limoges avec Evelyne Sagnet au téléphone. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Stéphane.
Quel
Comment
plaisir.
Allez-vous ben là-bas, dans votre pays?
Et ben on va bien, il fait super orageux, mais on tient bon, on tient bon, on tient bon. Voilà. Et
voilà.
Vous, quel temps à Limoges? Ben
on se cramponne aussi. Là, il fait très beau ce soir. Il a beaucoup plu, mais il fait très très beau ce soir. Donc, profitons-en.
Voilà. Alors, en fait, on t'a invité parce que dans les réunions de la Fédération LGBTI+, tu représentes une association qui s'appelle Limbo, qui s'écrit oui. L-I-M-B-O-W. Alors, la première des questions, c'est qu'est-ce que oui. ça signifie très exactement Limbo à Limoges ?
Oh, ben, tout bête. Notre première action importante a été de faire des passages piétons arc-en-ciel, donc avec le Rainbow. Et du coup, notre collectif, ben on a voulu que ça fasse en même temps Limousin et le beau de Rainbow. Donc, c'est devenu Limbo. Voilà.
Ah. Alors, la prochaine fois que je vais à Boisseuil, je passe vous voir, c'est ça?
Ah ben, mais j'espère bien. J'espère bien. Il y a des lits pour plein de monde.
Bon, d'accord. Mais on a belle maman, donc tout va bien, hein, puisque ma moitié est de Limoges, enfin de Boisseuil très exactement. Donc
ah, c'est vrai.
Ben oui.
C'est pas possible. Tu me l'avais jamais dit.
Ben
ça.
Non, je cache mes sources. Qu'est-ce que tu.
Mais c'est incroyable. Ben j'espère bien que quand tu viendras voir belle maman, vous passerez à la maison. Hein.
Ah oui, avec plaisir, grand plaisir. Alors Limbo. Quelles activités très exactement et surtout, c'est quoi ce projet dans les cartons ?
Alors, ce gros projet dans les cartons, c'est de créer enfin un centre LGBTI+ à Limoges. Hein, je ne vais pas vous faire injure en vous rappelant qu'il y a une recrudescence d'agressions homophobes et transphobes en France, hein, une augmentation de 28% sur l'année 2022. Hein, et que les extrémistes sont de plus en plus nombreux et sont fiers d'exprimer leur haine discriminatoire, que les États-Unis se replient dangereusement sur eux-mêmes, régressent sur le plan sociétal avec l'interdiction de l'avortement, avec la suppression de droits LGBTI+. Alors, ce phénomène-là, il va arriver sans nous, à grands pas. On voit ce qui se passe chez tous les copains en France, la destruction, le saccage des centres LGBT. On sent cette haine qui remonte, cette intolérance, c'est insupportable. Et nous, il y avait un besoin énorme. On en a eu confirmation l'année dernière après notre première marche des fiertés, parce que faut savoir que faire ça à Limoges, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Les politiques ne sont pas du tout ouverts sur la question, mais pas du tout. Heureusement, depuis les dernières élections, les nouveaux députés sont avec nous, mais au niveau de la mairie de Limoges, proprement dite, c'est très très compliqué.
On va être avec vous pour leur secouer les puces au mois de septembre. Voilà. Alors la date de la deuxième marche.
Alors c'est le 9 septembre la deuxième marche, hein, voilà. Donc on travaille. Tu vois, ce soir nous avons organisé un atelier slogan pancarte pour qu'il y ait de plein de belles choses dans le défilé du 9 septembre. Le dossier de préparation du centre, bon, il est énorme. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier officiellement de l'aide que tu m'as apportée. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, mais c'est énormément de travail, c'est une charge énorme et je ne sais pas vous comment vous faites, mais pour avoir des bénévoles qui prennent du temps sur leur vie pour aider, c'est pas facile.
Et oui.
Donc tout ça tient à quelques-uns.
C'est toujours. Et
mais c'est vraiment à très peu de personnes, quoi.
Voilà. Mais ça draine du monde et ça prend sens.
Voilà.
Créer un centre. Comme vous, oui. Vous vous attelez à le faire, ça veut dire que vous avez quoi comme aide? Donc, on s'échange les dossiers entre centres, ce qui aide, évidemment.
Heureusement.
Et au point de vue des institutions, du gouvernement, comment ça se passe? Moi, j'ai la réponse, mais c'est à toi de le dire, finalement,
alors,
parce que tu es au cœur du dispositif.
La réponse, nous sommes toujours en attente des arbitrages du gouvernement pour... les budgets qui vont allouer au centre LGBT. Jusqu'à preuve du contraire, ça devait arriver le 19 juin, c'est toujours pas fait.
Oui.
Moi, je me dis, plus on attend, plus ça risque de ne pas aller dans le bon sens. Voilà. Mais donc, on en est là à attendre ce que la DILCRA va bien vouloir subventionner pour la création de notre centre. Et bien entendu, tout va en découler.
Exact.
Hein, selon la somme qu'ils vont nous allouer, on pourra créer le centre ou pas. Tout bêtement. Bêtement. Hein. Voilà.
Alors, l'idée de créer un centre, c'est pour développer, allez, en une minute, quel type d'activité que vous pourriez développer et que vous estimez ne pas assez réaliser?
Ah ben, tout, vraiment, clairement, c'est l'accueil.
Oui.
L'accueil du public cible, hein, du public LGBTI+, un accueil bienveillant, sécuritaire, qui permettent à chacun de s'exprimer, d'exprimer son désarroi, comme d'exprimer ses craintes, comme d'exprimer les difficultés qu'il a dans la vie de tous les jours, pour qu'on puisse, nous, aider d'une manière ou d'une autre, déjà en écoutant et après en agissant.
Voilà.
Là, nous souhaitons, et ça je vais mettre les pieds dans le plat puisque nous avons une réunion à la préfecture dans quelques jours. Ça, je vais insister là-dessus. Il faut qu'on ait des réunions de travail, notamment avec la justice, avec les policiers, la police, avec l'éducation nationale, avec les gendarmes. Il y a une section qui s'est créée, ça va bien avec les gendarmes.
Bon, bah, très bien.
Voilà.
Il faut le dire.
Voilà. Ah ben oui, tout à fait. Mais bon, avec l'éducation nationale, avec la santé, parce que ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir des réunions de travail avec le service qui est spécialisé dans la transition
pour les personnes trans.
Limoges, parce que on a un des rares centres qui a vraiment tous les spécialistes, chirurgiens, endocrinologues, psychologues, psychiatres, etc.
Est-ce qu'ils psychiatrisent? Est-ce qu'ils obligent à avoir l'attestation d'un psychiatre ou d'une psychiatre?
Ah ben, pour l'instant, ils obligent toujours.
Voilà.
C'est scandaleux.
Et c'est ça qu'il faut travailler, effectivement.
Voilà. Et puis bon, mais tant qu'ils ils feront tout pour ne pas avoir de réunion de travail avec nous, tu vois, c'est compliqué, quoi.
Exactement.
Là aussi. Et c'est pour ça que je pense que le fait d'être répertorié officiellement comme centre LGBTI, d'avoir eu des subventions de l'État, derrière, ils ne pourront plus faire les sourds et muets comme ils le font actuellement.
Ce qu'on peut dire aussi publiquement, et ça c'est pas un secret, c'est que depuis août 2022, il y a une enveloppe budgétaire d'1,5 million pour la création des centres, et donc on ne comprend pas très très bien en quoi il faut attendre des arbitrages, puisque cette enveloppe existe.
On est bien d'accord. Enfin, elle existe ou elle existait?
Oui, c'est... Pourquoi dit-on cela? Allez, allons-y, Evelyne, explique-nous.
C'est vrai que j'ai tendance par moments à m'enflammer et à faire un peu de politique.
Enflammons-nous.
C'est quand même un gouvernement qui travaille beaucoup sur les effets d'annonce. Et comme ça fait plaisir à tout le monde. Mais une fois que l'effet d'annonce est passé, on ne voit rien arriver derrière, quoi.
C'est ça.
Soyons clairs.
Nous étions...
Ils ne font que ils ne font que de balancer des tas de promesses et derrière, il n'y a rien qui suit.
Donc, on attend votre subvention et votre lancement. Voilà. Le centre donc, oui. LGBTI plus prochain oui. du Limousin à Limoges voilà. avec Limbo. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne.
Et on arrosera ça tous ensemble.
Oui, oui, oui. Avec très, très, très grand plaisir, c'est certain. Bonne soirée.
Merci, Stéphane. Merci, Quasar.
À bientôt.
À bientôt.
Ils étaient hier soir sur la scène du festival de Trélazé, Imagination, Just an Illusion. Pour le coup, c'est bien réel. Connaissez pas, bah découvrez, mais vraiment, nous, c'est notre génération, hein. Totalement fanat, red dingue de la plastique androgyne de Lee John. Alors, Lee L23E, John, son nom de famille, et qui a encore un bel organe. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Soyons raisonnables ce soir. Non, vraiment, il assure, il est vraiment toujours au top du top. Imagination, just an. Il loue jeune. Déjà 20h53, comme le temps passe vite, une heure tous les 15 jours, Quasar on the air, Radio G 101.5. Et nous accueillons un nouvel invité, et cet invité s'appelle Alouette. Salut Alouette.
Bonjour.
Alors,
vous m'entendez bien ?
Ah ben parfait, parfait, parfait. Alors tu es en vadrouille, mais on ne va pas dire où, on va être discret sur l'endroit. Mais on t'a demandé de nous rejoindre avec plaisir ce soir, parce que en fait, il y a déjà un petit moment, tu nous as contacté à Quasar pour nous dire, bah voilà, je voudrais bien faire un stage chez vous. Et on t'a dit, bah ok, sur quel sujet ? Et ben justement, sur quel sujet ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton stage et qu'est-ce que tu peux nous dire de toi ? Et quel est ton cursus ? Pourquoi tu as fait appel à Quasar pour ce stage?
Ok, alors l'appel à Quasar, ça s'inscrit dans le cadre de mes études à l'Université d'Angers, dans le master études sur le genre.
Oui.
Voilà, ça s'inscrit aussi en linguistique puisque je propose de étudier la compréhension du français non binaire ou neutre auprès de la population en général. Donc c'est des formes linguistiques qui servent à désigner spécifiquement des personnes non binaires.
Alors voilà. on peut définir non binaire pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et qui auraient peut-être encore un doute.
Alors, la non-binarité, c'est à la fois une identité de genre et un parapluie d'identité de genre. Alors, il y a certaines personnes qui mettent un genre dedans, d'autres qui mettent à côté.
Oui.
Il y a plusieurs genres, xénogenres, demi-boy, demi-girl, maverick, neutrois, etc. Il y a aussi des identités propres aux populations autochtones, comme les bisus chez les busis en Indonésie ou les two-spirits. Qui est un terme générique, là encore, pour les autochtones d'Amérique du Nord, les Premières Nations. Et faut savoir aussi que toutes les personnes non-binaires ne se reconnaissent pas dans le parapluie trans. Voilà.
Voilà. Il y a une grande diversité, c'est ce qu'on veut dire.
C'est ça.
Alors, ton enquête, elle va avoir quelle forme et comment tu vas t'y prendre ?
Alors, c'est d'abord principalement un questionnaire en ligne, avec une partie sur le profilage des personnes et une autre partie qui teste les formes et les attestations trouvées. Et il y aura aussi normalement une version papier à remplir à Quasar ou distribuer comme ça.
Oui.
Voilà. Et comment je vais m'y prendre? L'enquête va durer un mois et demi. Et après, je vais analyser les résultats en fonction du profil de la personne et voir quelles sont les formes qui fonctionnent le mieux, si elles sont bien comprises. Et aussi, j'essaie de voir quelles sont, notamment pour le pluriel, les formes qui seraient les plus confortables à utiliser et qui signifieraient bien la non-binarité. Par exemple, là, c'est pour les questions où ce serait entre étudiants avec X, E, S à la fin.
Oui.
Ou étudiantes avec juste un Z. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est préférable au niveau de l'économie linguistique et au niveau de la compréhension?
Une question de Caro.
Oui, j'avais une question. Un jour, on m'a demandé mes pronoms et j'ai regardé les pronoms non binaires. Et en fait, ils ont tous une valeur politique, j'ai l'impression. Est-ce que tu vas regarder ça aussi? C'est comme si IL ou OL ou AL avaient une valeur politique différente, en tout cas pour la jeune génération.
Est-ce que tu as entendu la question?
Oui, j'ai entendu la question. Alors, pour ce qui est de la politique, j'interroge les idéologies linguistiques qui sous-tendent la conception du langage des différents locuteurs.
Oui.
Donc, il y a ça. Ensuite, pour les pronoms, qu'on va dire inclusifs, au niveau de la formation morphologique comme « yel » ou « i », je ne les ai pas inclus parce que pour moi et pour les autres résultats de différentes enquêtes, notamment la vie en queer, c'est pas considéré comme du neutre.
Ouais.
Ensuite, il y a des débats, etc.
Oui.
Ensuite, pour les autres pronoms, je n'ai pas eu de retour sur la politisation ou non des pronoms. Par contre, il y a des retours sur le rapport au genre de la personne.
Oui.
Par exemple, dans le cadre de mon mémoire, Hermine Lefebvre qui m'expliquait que pour un de ses personnages non binaires, Camille, à elle n'utilisait pas Yel parce que trop un mix de masculin et féminin et qu'au contraire, à elle utilisait A-E-L parce que ça correspondait plus à son vécu de genre et qu'elle évitait donc les tournures, qu'elle utilisait les tournures non genrées.
Oui.
Et c'est en rapport avec le vécu de genre. Mais c'est vrai que je pourrais inclure ça dans le questionnaire.
On attendra le résultat. On diffuse bientôt l'enquête via Quasar aux associations, aux personnes localement et nationalement. Et on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Alouette et très belle soirée à toi.
Bonne soirée.
Allez, ciao. Bon, avant de refermer notre Grande émission d'une heure. Juste un coup d'œil rapide sur l'agenda. Vous avez noté le samedi 24, les cours de français dès 9h et à 15h, Transfamille. C'est le rendez-vous des familles et des jeunes, qu'ils soient mineurs ou majeurs, pour discuter entre familles réunies des questions qui se posent et des problématiques ou des bonheurs. Et à 17h, la permanence hebdo. Et vous vous rappelez que du lundi au vendredi, au mois de juin et plus tard, rendez-vous de 14h à 19h possible dans Quasar. Mardi 27, on en a parlé avec David Perrotin qui sera présent ce mardi prochain à 20h, ciné-rencontre aux 400 coups. Et puis le mercredi 28, la présentation du travail par Alouette. On vous souhaite une très 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 belle soirée. Merci Caro, à bientôt.
À bientôt.
Bon, ça a été facile, hein, finalement.
Oui, ça va.
Oui, bah si, ça a été. On a, c'était plaisir quand même. On vous souhaite une très 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 belle soirée et on vous dit à dans 15 jours. Bisous bisous et bonne soirée.
Radio G 101.5 FM. Yes.